Le jour d'après, c'est le podcast qui libère la parole. Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez écouter la partie 1 de l'épisode 2, deuxième saison. Cet épisode 2 est dédié aux accompagnants. Le jour d'après est une fiction inspirée de faits réels. Chaque diagnostic est différent, chaque cancer est différent, chaque histoire est différente. La médecine, la recherche avance, il ne faut pas l'oublier. N'oubliez pas aussi et surtout de vous palper une fois par mois, et au moindre doute, écoutez-vous et consultez. Allez, place à l'écoute, épisode 2, David.
Sur le trajet interminable pour arriver à l'hôpital, ma mâchoire ne se desserre pas. J'agrippe le volant comme s'il était mon dernier soutien. Les enfants paniqués me posent 10 000 questions tous en même temps, je ne réponds pas. Je me concentre sur l'ambulance. Ne pas la perdre des yeux, ne pas perdre ma femme des yeux. Tant que les morves font du bruit, je garde espoir. Celui de l'entre-deux, celui qui nous fait tenir debout, les yeux fermés sur la vérité criante. Celui d'une vie qui continue malgré la gravité des moments. Celui d'une situation qui n'est pas encore définitive. J'ai envie d'appeler la terre entière. Parce que j'ai besoin d'aide. Parce que moi aussi je panique. Parce que moi aussi j'ai envie de poser 10 000 questions. Qu'à cet instant, j'ai envie d'être un enfant inconscient et insouciant. Me réfugier dans les bras de ma mère. Cette pensée me fait craquer. Les larmes ne se contiennent plus. Les morveux vont n'avoir que mes bras pour porter leur peine. Et je ne sais pas si je serai à la hauteur. Pendant les derniers kilomètres, je me replonge dans tout ce parcours. Cet escape game, dont on ne trouvera pas la dernière énigme, on va rester coincé là, enfermé dans ce protocole qui n'a pas abouti face à un mur. Malgré les épreuves, les succès et notre volonté commune d'y arriver, on va assister à la fin du jeu. Malgré notre participation exemplaire, en équipe, à l'unisson. L'annonce, tout d'abord. Celle de trop. Qui venait après l'annonce du cancer de ma sœur. Ces mots sortant de la bouche d'un inconnu qui allait décider de nos vies futures. J'avais fait semblant de recevoir un appel. Ne pouvant pas flancher devant ma femme et ce médecin inconnu, je n'avais pas été à la hauteur. Mais je savais Mélo plus robuste que moi. Elle n'avait pas besoin de consoler une autre personne qu'elle-même. Elle m'en a sûrement voulu ce jour-là. Mais à l'époque, ma fierté d'homme des cavernes prenait le dessus sur mes sentiments de mari sensible. Pendant son parcours de soins, je suis resté dans l'ombre. La voyant s'épanouir et trouver refuge sur les réseaux sociaux, j'avais l'impression d'être inutile. J'en souffrais par moments, de ne pas pouvoir lui apporter ce que toute cette communauté lui a apporté. Il m'arrivait d'être jaloux de Katel, qui connaissait les moindres doutes de ma femme. Elle était accompagnée par une batterie de médecins, psychologues et prenait des cours dans différentes associations. Elle m'avait parlé de soins de support. Mais moi, j'aurais aimé la supporter. Elle n'avait plus de temps libre. Les mois ont passé, ma femme est devenue une autre. Avec un courage de soldat en première ligne. Et d'un courage. Et à rage. C'était sa guerre et son combat. Elle avait un ennemi défini qu'il fallait éradiquer de son être. Elle était de toutes les manifestations, de tous les projets contre le cancer, de toutes les pétitions. Elle voulait des réponses pour elle et pour les autres. Au début, elle m'a caché son implication. Elle croyait que je ne savais pas. Elle pensait que je ne comprendrais pas, que je n'y serais pas sensible. Elle me voyait comme un homme primitif. Elle n'avait pas tort. Et nous vivions quelque chose d'inédit, qui remet en question la vision des rôles de chacun. J'ai commencé à la suivre sur les réseaux sociaux. Les morveux m'avaient donné son pseudo. Alors j'ai créé un compte, et je suis devenu l'espion de ma femme. Elle était très suivie, très appréciée. Cette communauté, c'était comme une famille. Une grosse boule de feu qui dégomme tout. Elles se soutiennent dans la moindre épreuve, le moindre examen. Elles prennent en main les nouvelles, en donnant des conseils et en apportant beaucoup de tendresse, d'écoute et de compréhension. Elles donnaient tellement dans ce combat qu'elles ont oublié notre famille. Nous avons été mis de côté. Nous étions plus à priorité. Je l'ai accepté. Je savais que ça ne serait qu'un temps. Une fois guérie, elle voudrait passer à autre chose et elle nous reviendrait. Mais les enfants se sont sentis seuls. Elles pensaient qu'à l'adolescence, les enfants ne veulent plus passer du temps avec leurs parents. Mais elles se trompaient. Ils se confiaient sur leurs soucis de collège, de lycée. Mais Mélodie décrochait rapidement. Pour elle, ce n'était pas des problèmes. Il y avait plus grave dans la vie, soufflait-elle. De les entendre se plaindre d'un prof, d'un camarade ou d'un rhume lui faisait perdre patience. Et elle quittait la pièce pour se réfugier sur son portable et un monde de vrais problèmes à régler. Elle oubliait aussi les réunions parents-prof, les examens scolaires, les événements qui sont importants dans la vie d'un enfant. Son excuse, c'était le fameux chemo brain. Au début, pendant le confinement, elle avait essayé d'impliquer toute la famille, de nous faire partager son combat. On lui a rasé la tête, face à la caméra, toujours. Il fallait montrer qu'on passe par là, et qu'on s'en remet. Capturer l'instant, être forte face à la caméra. Avec ce regard de défiance. Participer à des vidéos challenge, des concours Instagram, face caméra, encore. Notre vie était devenue une télé-réalité. Mais nous n'avions pas pris le pli de s'intéresser à cette vie sur petit écran. Je le regrette. Je n'avais pas compris l'importance et le but de tout ça. C'était son besoin, son soutien. Parce que nul autre que cette communauté ne pouvait comprendre ses peurs, ses angoisses, sa rage. Même pas les médecins ou psychologues n'ayant vécu la même chose. C'est elle qui souffrait. C'était à nous de nous adapter, de la suivre et de la soutenir. J'avais du mal à supporter qu'elle parte en vacances sans moi. Ça n'était jamais arrivé. On s'est connus très jeunes. On n'était jamais vraiment partis à l'aventure. Et encore moins l'un sans l'autre. Ma femme était devenue courageuse. Jusqu'à son émancipation de moi. C'est la première fois que j'ai eu peur de la perdre. Je n'aurais jamais pensé que je la perdrais définitivement. Notre relation avait évolué au fil des années vers une relation de potes, de compagnons de route. Notre relation était ancienne, acquise, sans effort des deux côtés, à la vie, à la mort. On avait signé 13 ans plus tôt. Nous étions liés, c'était comme ça. Elle essayait de temps en temps de lisser ses cheveux et de se maquiller un peu pour me plaire, pour raviver la flamme, comme on dit. J'en riais. Quel idiot j'ai été. Quand la chimio lui a fait perdre ses cheveux et quand elle a eu sa mastectomie, je n'ai plus osé venir vers elle. Ses cicatrices m'impressionnaient. Je la trouvais forte et courageuse. J'ai eu peur de l'abîmer, de lui faire mal. J'ai eu peur d'être rejetée. Elle m'avait dit qu'elle n'avait plus de sensation sur la peau de sa poitrine. Elle faisait des tests chaud-froid dessus, en restant interloquée. Je la regardais faire, mon désir au placard, comme un spectateur d'une expérience scientifique. J'allais me coucher à des horaires décalés pour qu'il n'y ait plus de gêne. Plus de devoirs conjugaux non accomplis. Pourtant, je n'ai jamais trouvé aussi belle qu'à ce moment. Elle n'a jamais été aussi féminine. Elle a appris à nouer des turbans, à associer les couleurs, à porter des bijoux. Je ne l'ai jamais autant regardée et admirée. Mais nous étions devenus des étrangers.
Épisode joué par Jean-Baptiste Ray dans le rôle de David. Écrit et imaginé par Karine Abbé, produit par l'association Demain. La suite de ton épisode du podcast Le Jour d'après sortira dans quelques jours. Encore un petit peu de patience.